RCF.
Bienvenue à toutes et à tous en direct ou en podcast dans ce cinquième numéro de la septième saison de Côté Ouvert, votre rendez-vous consacré à l'actualité du rugby à 15 sur RCF Pays d'Aude, avec la complicité de RCF Pays Ternay et également diffusé sur RCF Occitanie en DAB+, rendez-vous qui vous est également proposé en partenariat avec le site Vibré Rugby. Aujourd'hui, dans notre multiplex entre l'Aude, le Tarn et le Piémont des Alpes, il y a quand même une très très forte connotation audoise, à commencer par notre spécialiste de l'hémisphère sud, monsieur Christian Guittard. Bonjour Christian.
Bonjour Patrick et bonjour à tous.
Alors qu'il vient de bâcher sa piscine à débordement, Manu Duval nous rejoint dans l'émission. Salut Manu.
Vu le temps, j'aurais pu la laisser ouverte. Salut Patrick, salut à tout le monde.
Allez, pour rééquilibrer ce casting très sudiste, on retrouve au pied des Alpes Frédéric Protin. Salut Fred.
Bonjour Patrick et bonjour à tout le monde.
Et puis nous avons le grand plaisir d'avoir un invité. Ce soir, c'est Jean-Louis Cosinus, un Audois, un de plus, que nous accueillons. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Patrick et bonjour à tous.
Et enfin, pour mettre en ombre cette émission, vous le connaissez, c'est l'homme de l'ombre, c'est GG au doigt de fée, monsieur Jérôme Bozon. Salut Jérôme.
Salut Patrick et bonjour à tout le monde.
Au menu de Côté Ouvert aujourd'hui, nous ferons au focus, justement grâce à notre invité, sur un organisme méconnu du grand public et pourtant indispensable à l'écosystème rugby, c'est la DNACG. Et puis, nous vous proposerons un petit détour par la Nouvelle-Zélande et la Coupe du Monde féminine de rugby, puisqu'on connaît désormais le tableau des demi-finales. Alors sans plus tarder, je me tourne vers notre invité aujourd'hui, Jean-Louis Cosinus, pour évoquer donc cet organisme un petit peu méconnu qui est la DNACG. Peut-être en préambule quand même, Jean-Louis Cosinus, pour nos auditeurs qui auraient le mauvais goût de ne pas vous connaître, est-ce que vous nous faites une petite présentation, qui vous êtes, quelles fonctions vous exercez, puis beaucoup quand même ont des souvenirs du Racing Club Narbonne Méditerranée, donc se souviennent aussi de votre passé un petit peu, je suppose.
Oui. Donc, je vais essayer d'être très rapide, mais puisque vous m'avez fait une présentation et l'histoire de Jean-Louis Cosinus avec le rugby, donc ça fait remonte à quelques années maintenant. Donc, moi, très simplement et très brièvement, donc, je suis né en tant que joueur de rugby à Olonzac, dans le Minervois. Là, c'est une enclave aussi d'un village qui est érolté, mais une enclave dans l'Aude, qui a été champion de France de première série. Très vite, donc, j'ai rejoué le Racing Club Narbonnais à l'école de rugby. Puis après, je suis passé, donc, j'ai fait toutes les catégories jusqu'à senior. Après, entraîneur, Olonzac, Fleury-Coursan, Carcassonne aussi, notamment la montée Fédérale 3, Fédérale 2, en tant qu'entraîneur. Et puis après, retour au club, donc, entraîneur des Crabos, entraîneur des Espoirs pendant 4-5 ans. Et puis après, en 2007, la présidence du Racing Club Narbonnais Association Formation, jusqu'en 2019. Donc, l'année de la descente en Fédéral 1, où j'ai géré donc cette saison. Voilà. J'ai également été membre du comité du Languedoc, donc sous l'ère de Guy Molvaux, membre du président de la PAR, qui est l'association des présidents des associations de support de clubs d'élite et 30 clubs professionnels, pendant 4 ans, membre du comité directeur de la Fédération française de rugby pendant 4 ans, 3 ans sous l'ère de M. Camus, Pierre Camus, et un an avec Bernard Laporte. Voilà, ensuite trésorier du COL, l'organisation qui a organisé, donc avec la présidence de Joe Mazo, les championnats du monde de moins de 20, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019.
Oui, bien sûr.
Voilà, et actuellement, on continue notre exploration et notre travail dans le rugby. Donc, je suis président de la CRCF, ce qui est une commission, on le présentera après, de la DNACG et de la DNACG.
Alors justement, voilà. Tiens, DNACG, le sigle a été lancé, ça y est. Est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire et nous rappeler rapidement ce qui se cache derrière ces lettres DNACG?
Alors, DNACG, c'est la Direction Nationale d'Aide au Contrôle de Gestion, qui aujourd'hui donc, a changé de nom, qui s'appelle l'A2R. Et l'A2R, c'est donc l'autorité de régulation du rugby. C'est la notion de régulation qui chasse la notion de contrôle. C'est important.
Politiquement correct.
Dans la vision des dirigeants du rugby français. d'essayer d'apporter un peu plus de souplesse et de pédagogie.
Et est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots le contexte de sa naissance? Quand est-ce que cet organisme est né pour répondre en fait à quel besoin?
Alors, l'organisme, si mes recherches et mes observations sont bonnes, date de 1999. C'est la venue du professionnalisme, la reconnaissance du professionnalisme dans le rugby. Hein. Ça, c'est important. Et le contexte, c'est aussi le code du sport qui impose cette organisation qui est la DNACG. Et c'est important que toutes les fédérations sportives, quelles qu'elles soient, aient en leur sein un organe de contrôle et de régulation afin de s'assurer que, ben, qu'il y ait notamment la pérennité de ces associations sportives ou de ces sociétés. C'est important. De favoriser aussi le respect de l'équité sportive, c'est aussi important. Et de contribuer à la régulation économique des compétitions.
Voilà. Monsieur Guittard, vous êtes attentif, mais je crois que vous avez des précisions à demander.
Oui, savoir si donc avec ce changement de dénomination, on a toujours la même structuration au niveau de la DNACG, quelle que soit sa nouvelle appellation. Moi, j'avais lu qu'il y avait globalement deux grandes commissions qui étaient un petit peu des commissions préparatoires, une qui semblait s'occuper plutôt du rugby professionnel et une et donc de la LNR et l'autre pour la fédération, une autre commission et qui envoyait finalement son travail au Conseil supérieur qui lui prenait les décisions de sanctions éventuellement. Est-ce qu'on est toujours sur ce même fonctionnement avec cette nouvelle structure, cette division entre le pro et le monde amateur?
On est toujours sur cette organisation. En fait, la DNACG, c'est quatre commissions. Donc, vous l'avez dit, il y a le Conseil supérieur qui est une commission, et ensuite trois autres commissions, la CRCF que je préside, qui s'occupe des clubs de Fédéral 2 jusqu'au National, la CCCA qui est la commission des agents aussi, donc il y a le contrôle des agents. Et ensuite, donc, la dernière, la CCP, c'est la commission, le contrôle des clubs professionnels que vous avez évoqué. Donc, c'est quatre entités bien distinctes, chacun avec un rôle bien précis.
Alors, si on poursuit peut-être, parce que je pense que ça peut intéresser les éditeurs, c'est sur la nomination des membres, si je me trompe pas, mais vous me corrigez bien sûr, ces membres sont nommés globalement par la LNR ou par la FFR en fonction des commissions, c'est ça?
Tout à fait, oui. Tout à fait. De candidature des personnes aussi compétentes, ouais. Notamment à la CRCF comme les autres commissions, et c'est ou des juristes ou des gens, des hommes du chiffre, quoi, commissaire comptable, expert comptable, contrôleur de gestion.
Voilà. Et c'est votre cas, Jean-Louis, vous êtes un homme des chiffres.
Voilà, moi je travaille activement au soutien des entreprises et pour le conseil aux entreprises. Voilà.
D'accord. Et puis, du coup, ça fait poindre une dernière question pour ma part. C'est la question de l'indépendance. Elle est affichée, elle est connue. Mais comment est-ce qu'on est certain de garantir cette indépendance dans la mesure où sont quand même nommés par la LNR et la FFR les membres de ces commissions?
Ben c'est important, c'est le règlement. Il faut être très vigilant sur les communications qui peuvent être faites avec avec les élus, et puis aussi, nous, de notre côté, on a un devoir aussi de neutralité, d'indépendance, et on a un code d'éthique, hein, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez abordé les relations que, bien sûr, avec le Racing Club, je ne peux pas être licencié de mon club, et je dois être très vigilant aux relations que je dois avoir avec les clubs, les clubs pour lesquels j'ai eu des contacts et des relations, quoi. Donc, oui, effectivement, il y a cette indépendance avec les élus de la Fédération française de rugby. Hein. Donc, ils ne nous sollicitent pas, ils ne doivent pas nous solliciter sur nos décisions. Hein. Et ensuite, nous, de notre côté aussi, on doit respecter aussi les rapports et les relations qu'on doit avoir avec les clubs.
Voilà. Fred, à toi.
Oui, je voulais demander à Jean-Louis, parce que je me suis longuement intéressé un petit peu à toutes ces questions de budget. Et moi, je voulais vous demander qu'est-ce qui permet de valider un budget. Alors, est-ce que c'est le budget prévisionnel ou c'est le budget réel en fin d'exercice? Comment ça se travaille tout cela?
Bon, alors, les clubs sont soumis à des obligations, hein. D'informations, notamment des documents financiers. Donc la première, vous l'avez évoqué, c'est le prévisionnel au 15 juillet. Donc tous les clubs envoient donc un dossier relativement technique, quoi, où ils envoient donc leur prévisionnel d'activité et ensuite des informations complémentaires annexes sur tous les contrats aussi qu'ils signent avec les joueurs, notamment. et toutes les informations d'ordre financier qui nous permettent d'analyser. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, donc là, on est en train de travailler sur l'échéance du 15 octobre, hein, qui c'était l'endroit de tous les bilans, qui était clos sur la saison passée, donc au 30 juin 2022. Donc on analyse les services juridiques, analyse les comptes, et donc là, on va avoir une remontée d'informations avec les joueurs, les situations des clubs.
Voilà. Et en cas de déficit, c'est les fonds propres des clubs qui épongent le déficit. C'est ce que j'avais cru comprendre.
Quand il y en a, ce sont les fonds propres qui épongent, et c'est tant mieux. Et quand il n'y en a pas, effectivement, il y a des plans d'action qui doivent être mis en place. Donc soit les clubs travaillent sur le partenariat, essaient de redresser par un partenariat peut-être exceptionnel, quand elles ont la chance de faire les phases finales, par exemple, ça permet de doper le compte d'exploitation. Et sinon, c'est des augmentations de capitaux, c'est des actionnaires qui mettent la main à la poche, comme on dit, en complément de passif. Voilà.
Et dernier point, comment le salary cap est validé par votre organisme ?
Alors, il n'y a pas de salary cap, notamment sur la section que je gère, hein, donc Fédéral 2 à National. On a juste un plafonnement de masse salariale. Après, c'est technique, parce que la masse salariale intègre pas mal d'éléments, qui est à hauteur de 50% du budget. Voilà. Mais vous savez, on a la masse salariale quand même en National 2 et National 1. National, pardon, on ne dit pas National 1, on dit National. Elle est encore raisonnable. Quoi. On est, pour une formation, hein, on est à 20 000 euros de masse salariale brute moyenne en National 2. Et en National, on est à 30 000 euros. Donc, ça reste quand même des masses salariales correctes. Et donc, intégrer un salary cap, donc ça serait peut-être réduire la capacité des joueurs à avoir un salaire quand même qui correspondrait à un niveau de vie. Donc, aujourd'hui, le plafonnement est à 50%, mais ça évolue, quoi, parce que bon, on sent que ça pousse, que les économies de clubs de National 2 et de National avancent. Et donc, effectivement, le législateur, il faudra aussi qu'il s'adapte à ces évolutions.
Mais 50%, c'est aussi vrai pour le top 14 ?
Non. Non, alors là, je peux pas vous. J'ai plus les chiffres en tête, donc je ne vais pas dire des choses que peut-être que je ne maîtrise pas. Mais c'est pas le même. La salary cap, là, elle a un autre objectif, en fait. Hein. C'est là l'objectif, en fait, de caper les salaires, c'est avant tout de préserver un peu un équilibre dans la gestion d'un club, parce qu'un club, ce n'est pas qu'une équipe première. Quoi. Vous voyez, c'est le ressenti. Dans l'autre cas, c'est réguler un peu l'équilibre et l'équité sportive. Quoi. Voilà.
Manu, peut-être, sur. Tu avais une question sur les infractions, me semble-t-il.
Oui, oui, bah, c'est le gendarme hein, qui va rentrer en lice. Là, il y a forcément des infractions relevées. Et quelles sont-elles déjà les natures de ces infractions, et puis quels outils vous pouvez avoir pour y remédier?
Alors, concernant les infractions, donc je pas trop ce terme, ou les manquements, ou le dysfonctionnement.
Les écarts.
La plus douloureuse, c'est celle qui a été instauré pour inciter donc les clubs, notamment, je vais commencer par la première, les clubs à transmettre les documents dans les délais, sachant qu'on leur rend service, parce qu'en fait, en transmettant les prévisionnels, ça les oblige aussi à faire des prévisionnels et ne pas partir à l'aveugle sur des saisons et de compter les points à la fin, parce que des fois, c'est douloureux. C'est les points de bonus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a les, depuis deux ans, oui. Donc il y a les points de bonus. Donc, c'est pas des points de malus, c'est des points de bonus. Donc, c'est deux points. Et donc, les clubs qui transmettent les documents en temps et en heure, aux trois échéances, ont deux points de bonus. Et là, effectivement, notamment les clubs qui accèdent, par exemple, Fédéral 3, Fédéral 2, qui ont du mal à se structurer, qui ne sont pas encore très structurés. Donc, on a des décalages. Et donc, effectivement, vous savez que quand on prend des pénalités sur le sportif, elles sont presque plus douloureuses que sur le financier. Donc, ça, c'est une sanction qui est d'ordre sportif. Et alors, la non-attribution de ces deux points de bonus. Voilà. Et on a très peu, parce que les clubs, quand même, ils sont très vigilants et ça se compte sur le doigt de la main. Hein. Les clubs vraiment font des efforts, ils font un travail remarquable. Je félicite les présidents de clubs et leurs dirigeants. Mais quand c'est pas le cas, et bien effectivement, on se retrouve confronté à ça. Et après, on a des sanctions qui sont un peu plus sur le structurel, et notamment sur les capitaux propres. Donc, les clubs qui ont une dégradation liée aux résultats sur les capitaux propres, là, il faut examiner les raisons. Hein. Parfois, c'est des ajustements, parfois, c'est des retraitements aussi de nos services. On a les services juridiques qui y travaillent, on mandate aussi des cabinets d'audit hein, qui interviennent pour traiter les dossiers. Et donc là, ça peut être des sanctions selon l'ampleur du déclash qui peut amener à une rétrogradation, à une non-accession, à une non-participation facile. Hein, voilà. Mais avant ça, on a un travail quand même de contact, de relations, de pédagogie. Il y a des outils qui existent pour essayer de minimiser la situation et d'accompagner les clubs pour pas qu'ils soient sanctionnés brutalement. Quoi.
Voilà. Alors justement, tiens, pour aller un petit peu plus loin, est-ce que dans le contexte actuel ou post-Covid ou post-pandémique, est-ce que vous avez vu quand même des clubs en souffrance budgétairement du fait de cette situation, ou au contraire, l'accompagnement qui a été fait par l'État, notamment avec les PGE, ça a quand même permis de maintenir cet écosystème rugby dans de bonnes conditions?
Alors, ce qui va arriver, c'est ma plus grosse crainte, quoi. Et moi, je dis gérer, c'est toujours anticiper. Je n'ai de cesse d'alerter et les membres de la commission et aussi les élus de la fédération, parce que souvent, le législateur, il a un temps de retard quoi, dans l'établissement. Et donc, aujourd'hui, le constat, en fait, c'est comme pour les entreprises, hein, 30 juin 2022, 30 juin 2020, c'est le Covid arrive en avril 2020. Mmh. Hein, on est en mars-avril 2020, donc brutalement, donc les saisons sont interrompues. Les bilans du 30 juin 2020 sont bons, il n'y a pas de souci. Les bilans du 30 juin 2021 sont bons aussi, on n'a pas zéro souci. Mais quand je dis zéro souci, c'est zéro souci. Et pourquoi, vous l'avez dit tout à l'heure, l'État était très présent. L'État a fait un travail remarquable. Quoi. Ils ont aidé, c'est vrai, les clubs donc, à passer l'année sportive, mais aussi ils ont aidé les entreprises, ils ont accompagné les entreprises. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que tous les partenaires ont été qui sponsorisent, qui accompagnent les clubs ont été aidés. Et ça a permis de maintenir l'économie des clubs. Et là, aujourd'hui, là où je vous parle, il y a zéro problème sur les clubs. Mais zéro problème. Par contre, on le sait, maintenant, les PGE, vous en avez parlé tout à l'heure, rentrent en remboursement. Hein. Les entreprises commencent depuis mai à rembourser les PGE. Et là, je suis avec en plus les difficultés qu'on a avec le conflit en Ukraine, les érosions qu'on a sur les matières, sur les prix des matières premières et autres. On a vraiment une érosion sur les résultats. Ma grosse crainte, c'est le soutien de ces partenaires donc privés, hein, qui sont les entreprises. Quel impact ça va avoir sur le financement des clubs? Là, je pense que l'on va avoir des bilans 2023 peut-être et certainement 2024 en difficulté. Il me tarde d'avoir les résultats de 2022. Hein, on y est en train de les analyser. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Puisqu'on est encore en sursis avec ces PGE. Hein, mais l'avenir risque d'être un peu plus sombre. Et il va falloir qu'on anticipe pour ne pas envoyer tous les clubs au Conseil supérieur ou plus. Quoi. Voilà.
Manu, pour conclure cette page DNACG, tu avais une petite question sur les relations quand même qui restent entre Jean-Louis et le Racing, parce que c'est une longue histoire d'amour. Donc on va conclure là-dessus rapidement pour pouvoir tourner la page ensuite.
Oui, bah, 12 ans de présidence à la tête de la SOS, il l'a dit, 39 ans quand même hein, en tant que joueur, éducateur et dirigeant. Donc j'ai un peu peut-être la réponse à la question, mais je vais quand même la poser. Est-ce que tu suis toujours le Racing Club? J'ai eu un petit message hier en allant sur la route de Chambéry, donc j'ai un peu la réponse. Mais bon, ça serait bien que tu nous la donnes. Et puis surtout ton ressenti sur les années après ta présidence et la venue de ce nouveau championnat national, ton avis là-dessus et également bien entendu le cœur Narbonnais qui va parler peut-être.
Oui, ben, le cœur Narbonnais il est forcément 40 ans, plus de 40 ans impliqué sans même quand j'entraînais Carcassonne ou Fleury-Courson, j'étais éducateur à l'école de rugby de Narbonne, donc je ne me suis jamais arrêté de m'impliquer dans ce club, donc forcément il y a un très fort attachement et une attention très forte sur ce club. Mais après, quand vous quittez une présidence, 13 ans de présidence, 13 ans d'implication, il faut prendre le recul nécessaire pour pouvoir laisser les autres travailler. Et c'est important parce que, surtout quand vous êtes quelqu'un de conviction et d'impliqué, donc c'est important de prendre du recul. Par contre, chaque fois que je peux, j'accompagne le club dans peut-être des options, des décisions, des conseils, chaque fois qu'on me le sollicite, je suis là dans la mesure aussi de mes et dans les contraintes de mes obligations, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui le Racing Club Narbonnais à l'état national, je suis, ils sont dans un périmètre de contrôle, donc il y a sur certains secteurs, c'est plus délicat. Quoi. Voilà.
Eh bien, merci, je suis Jean-Louis.
Très fortement, bien sûr, le Racing Club Narbonnais. Oui.
Merci Jean-Louis, disais-je. Et nous, on va filer vite fait parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps en Nouvelle-Zélande. Et oui, puisque la Coupe du monde de rugby à 15 féminin poursuit son bonhomme de chemin. Ce week-end se disputaient les quarts de finale. Et ces quarts de finale ont permis de connaître les quatre formations qui ont gagné leur place dans le carré final. Alors, je rappelle les matchs qui se jouaient ce week-end, c'est-à-dire samedi et dimanche. La France a battu l'Italie pour les leftos. C'est 5h30, je crois, sur TF1, 39-3. La Nouvelle-Zélande n'a fait qu'une bouchée du Pays de Galles, 55-3. Et dimanche, l'Angleterre s'est imposée facilement face à l'Australie, 41-5. Et le Canada est venu à bout du voisin états-unien, 32-11. Ce qui nous fait des demi-finales, ben, on va dire, sans trop de surprises, puisque le Canada, samedi, sera opposé à l'Angleterre. Et les Françaises vont retrouver sur leur route les fameuses Black Ferns, c'est-à-dire les fougères noires. Je me tourne vers Christian Guittard, spécialiste Nouvelle-Zélande et de l'hémisphère sud, pays que tu connais très bien. Des Françaises quand même qui ont eu du mal à lancer leur match contre l'Italie. Il a fallu en gros une heure de travail de sape pour ensuite se faciliter la tâche.
Oui, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Elle jouait peut-être avec le frein à main, avec beaucoup de pression. Cette équipe italienne, elle les avait battues pendant le match de préparation. Mais moi, j'ai l'impression que le discours qu'on a entendu, je pense notamment celui de Laure Sensus, de se libérer, de justement profiter un petit peu de cette Coupe du Monde, elles l'ont entendu. Et puis après, quand même, elles ont roulé sur les Italiennes. Il y a eu de beaux essais, de belles actions. Ça sera pas, me semble-t-il, la même chose quand elles vont rencontrer les fameuses Black Ferns, parce qu'elles font aussi une très belle Coupe du Monde. Elles sont à domicile, elles ont eu un creux sportif quand elles étaient venues l'année dernière contre les Françaises, de défaite ouais. Ici. Et puis, bon, des affaires internes, un petit peu de questions de racisme de la part des joueuses océaniennes. L'arrivée du nouvel entraîneur Smith l'a fait véritablement du bien. Il y a un gros mouvement populaire derrière ces Black Ferns, malgré le couac de la fédération Néo-Z qui a diffusé les All Black Japan en même temps que le match des Black Ferns. Mais enfin, voilà, la population est très contente de voir une belle équipe et qui, elle, gagne très largement, hein. Tu l'as rappelé sur les scores. Donc, je pense qu'il y a une belle montagne devant, et si c'est pas celle-là, il y en a encore une autre derrière, ça sera l'Angleterre. Donc, ça fait une belle demi-finale, en tout cas, une belle demi-finale absolument à suivre.
Fred, brièvement, Thomas Darracq, l'entraîneur des filles, disait le premier objectif, c'était la qualif, donc c'est atteint. Donc, on va déjà, on va dire, marquer cette phase. On est en demi-finale, c'est déjà positif.
Oui, non, mais c'est incontestable. Mais comme la France, elle est de toute façon quasiment très souvent dans le dernier carré, donc l'objectif forcément a été atteint. Mais comme l'a très bien rappelé notre collègue, il est clair que là c'est une véritable un mur hein, qui se présente devant les Françaises, et là, ça sera très, très, très compliqué. Alors maintenant, elles les ont déjà battues deux fois, ça sera un autre contexte, elles jouent chez elles. Là, les Françaises n'auront plus le droit à l'erreur. Hein. C'est hors de question de laisser tomber un ballon, hors de question de louper une occasion, parce que là, il n'y en aura pas de...
Ouais, Manu, pareil, ces Black Ferns, on les avait battus en novembre, je ne sais pas si tu te rappelles, 38-13 pour le premier test, 27-9 pour le second test. Donc, quelque part, les Françaises ont emmagasiné de la confiance, mais comme le disait Christian, c'est pas la même équipe, c'est pas le même contexte, c'est pas le même entraîneur, et elles sont à domicile. Est-ce que tu les vois, toi, en mesure quand même de créer la surprise face aux Black Ferns ce dimanche?
Une surprise, peut-être pas. Hein. Moi, j'ai regardé les
la
stats.
La boule de cristal.
Ouais, la boule de cristal, mais les stats, surtout. Hein. La France, quand même, meilleure défense. 21 points seulement encaissés, ouais. Les quatre équipes, aucun carton jaune. Alors, le mur, je ne sais pas s'il sera néo-zélandais, il sera peut-être aussi français. Mais comme l'a dit Fred, il faudra être pragmatique, autant devant et autant à l'arrière. Et puis, comme tu l'as dit avant, hein, on joue toujours un match pour le gagner. Donc, on verra bien.
Christian, tu n'as même pas une minute. Est-ce que tu penses que si, par miracle ou par qualité et bon match des Françaises. Elles sont en finale. Est-ce qu'il y a un moyen pour ces Françaises ensuite de renverser la hiérarchie mondiale? Parce que quand même les Anglaises, je crois que les Françaises sont sur une série de 10 défaites consécutives contre
les là pour le coup, là c'est plus qu'un mur, hein, c'est une véritable frontière, un Everest, hein, clairement. Moi ça me paraît compliqué, mais après bon voilà, ça sera le match d'une vie, le match pour toutes ces filles. Le Porto, quand même le rugby français en ce moment, c'est quand même sympa de le voir, le rugby féminin qui fait sa place. Voilà, là pour le coup le miracle s'il a lieu c'est vraiment en finale contre l'Angleterre, mais il va falloir déjà y aller en finale et il y a beaucoup de sétistes qui jouent dans cette équipe Néo Z. Je pense qu'il y aura beaucoup de vitesse. Attention, on les a battus, mais c'est encore une fois ça sera pas la même équipe et la même ambiance. Donc si c'est le cas contre l'Angleterre, ça sera un autre challenge, elles auront le temps d'y penser.
Et bon, messieurs, je vous propose un challenge, il nous reste à peine une petite minute, on va faire un tour d'horizon. Chacun vous allez être amené à vous prononcer sur non pas la demi-finale mais sur la finale. Qui vous voyez champion du monde 2022 de rugby chez les filles? Et je vais commencer en tout seigneur tout honneur par notre invité Jean-Louis, c'est à vous. Qui vous voyez décrocher cette coupe du monde en 2022? France, Angleterre, Nouvelle-Zélande ou qu'est-ce qu'il me reste? Canada.
Moi je vais dire je crois à nos joueuses, aux Françaises, hein. Elles ont fait une bonne première mi-temps contre l'Angleterre, mais si elles ont été battues. Et si elles s'appuient sur cette mi-temps, elles ont bien pris les Italiennes, c'était pas simple. Donc, moi, je dis la France.
Manu.
Ben, je vais dire la France, même si je pense quand même que les Anglaises seront compliquées à bouger.
Fred.
Ah, les Néo-Z, hein, les Black Ferns, moi, je les vois bien gagner chez elles.
Et Christian, alors
le spécialiste. Oui, je pense aussi qu'on est aux Z. C'est pas facile de gagner en Nouvelle-Zélande. Là, j'étais en 2011 et c'est compliqué quand on est à Aotearoa. Donc, ça va être compliqué, mais ouais, je vois bien les Néo-Z, moi aussi.
Bah écoutez, messieurs, il me reste juste qu'à vous remercier, à souhaiter un très bon appétit à nos auditeurs, à nos auditrices. À vous donner rendez-vous dans 15 jours pour le prochain numéro. Vous rappelez que sur Vibri Rugby, il y aura l'US Carcassonne ce week-end, je crois, diffusé avec Joël, Christian et sûrement, il m'en manque un,
Luc. Non, il n'y aura que Joël et Christian.
Joël et Christian en commentaire, donc ça sera très bien. Et puis vendredi, avec le copain Renaud Sorel, samedi, on sera en commentaire pour un Albi VRDR et le Manu qui me fait des grands signes parce que je ne l'oublie pas, avec Arnaud Verdal. Ils seront à la piole au Parc des Sports et de l'Amitié pour recevoir Cognac. Ai-je raison, messieurs?
Oui.
Oui.
Alors, on se souhaite bon appétit et on se dit à très vite sur Côté Ouvert. Salut à tous.